Genèveactive.ch.
Christian Rumelin, votre exposition de notes vitales au cabinet d'art graphique comporte une installation, des sculptures, des œuvres sur papier. Comment est-ce que l'on pourrait définir ou caractériser le travail, le mode d'expression principal de notes vitales ?
Lui se définit principalement comme un sculpteur, une idée qu'on a voulu mettre en question lors de l'exposition. La mission principale du cabinet, c'est bien évidemment de s'occuper d'œuvres sur papier tout en général. Et dans ces œuvres sur papier, il y a une approche à l'espace, à la notoriété, à la définition d'un espace ou l'occupation d'un espace qui est extrêmement particulier. Pour ça, on a voulu aussi intégrer des multiples, qu'il a fait assez souvent au passé, quelques petites sculptures et ensuite une installation.
Alors vous exposez des boules de verre, par exemple, qui représentent des montagnes de la Basse-Engadine, des objets du quotidien, si l'on peut les appeler ainsi, puisque je parle d'une luge en marbre. Quel est son rapport avec la nature, et précisément celle de la Basse-Engadine ?
La nature, pour lui, c'est extrêmement important. À mon avis, il faut différencier deux points là-dedans. C'est premièrement sa relation avec la Basse-Engadine et deuxièmement avec la nature. La Basse-Engadine, c'est pour lui un point d'ancrage. C'est la source de beaucoup de ses inspirations. C'est le point de retour. Il revient chaque année à plusieurs reprises à son lieu d'origine, à Sente, son village où il a grandi. Et cette nature de la Basse-Engadine lui a ensuite ouvert maintes pistes, maintes d'impressions et d'idées qu'il poursuit jusqu'à aujourd'hui.
Cette nature, elle est enchâssée dans des boules de verre, je pense aussi bien aux boules de neige. Mais elle est reproduite dans des matériaux qui contrastent avec la nature elle-même, puisque je pense à cette branche qui est en acier inoxydable, par exemple, à la luge aussi en bois qui est en marbre. Est-ce qu'il y a un contraste justement entre l'utilisation de ces matériaux ?
Oui, c'est une utilisation très bien, extrêmement bien réfléchi, extrêmement bien posé. C'est jamais une utilisation très directe, c'est-à-dire un objet trouvé, un ready-made. C'est toujours un travail artistique qui ensuite, je dirais pas déforme, mais qui ajoute une autre qualité à l'objet, à la forme, à l'objet trouvé, et ensuite qu'il s'exprime avec ça.
Outre la forme, il y a également la couleur, puisque le blanc est présent, un blanc mat, qui est aussi bien celui des boules de neige avec le plâtre, également celle de la luge, enfin le marbre blanc en général, même son portrait est en marbre blanc.
C'est une couleur, il a toujours souligné dans toutes les interviews qu'il a données, ou dans beaucoup d'interviews qu'il a données, dans beaucoup des écrits qui ont été faits sur lui, que finalement le blanc, c'est un de ces réflexes de la Basse-Engadine. La Basse-Engadine, c'est un paysage qui a pendant 8 à 9 mois qu'il y a la neige. C'est-à-dire le blanc, il est omniprésent ou était omniprésent lors de son enfance, de sa jeunesse. Et ça lui a marqué extrêmement. Il joue sur les différentes tonalités de blanc. Il est extrêmement sensible à ces différences, à cet équilibre entre les différents tons de blanc qu'on peut avoir. Et finalement, le blanc pour lui, c'est si on veut, c'est la couleur de chez lui, de sa maison.
Face à cette luge dont on parle, vous avez présenté une installation qui est probablement d'inspiration avec celle qu'il avait réalisée à New York, qui était le Calming Room, qui est donc en pain, donc qui contraste avec l'utilisation du marbre et qui diffuse également l'odeur du bois dans cette pièce. Est-ce que c'est volontaire d'avoir posé ce marbre au pain ?
Oui, bien sûr, c'est volontaire. C'est l'idée de cette installation d'origine qu'il a fait à New York était d'utiliser un matériau inconnu à New York avec toutes ses propriétés de ce matériau. C'est l'odeur de la pindarole a effectivement un effet très calmant sur les personnes qui sont entourées. Et ce qu'on a voulu ensuite faire, c'est cacher, couvrir les fenêtres au cabinet pour ainsi donner un aperçu, une autre notion entre l'intérieur et l'extérieur. Aujourd'hui, quand on fait cette interview, malheureusement, il est gris, on a de la pluie, alors on ne le voit pas très bien, mais quand il y a ensuite le soleil entre dans la pièce à travers les trous qu'il a percés, il a sorti tous les nœuds de branches, ça entre dans la pièce, ça donne un effet extrêmement magique, et ça évite qu'on pourrait, à ce moment-là, ensuite regarder de l'intérieur vers l'extérieur. Dans l'après-midi, quand le soleil ensuite n'est plus directement sur cette façade du bâtiment, la relation se change entièrement. C'est-à-dire, tout d'un coup, ensuite, on a une perspective extrêmement réduite, mais on peut regarder de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire carrément l'opposé de ce qu'on a le matin.
Quel est son rapport avec la matière, puisque vous expliquez dans votre texte qu'il malaxe par exemple plâtre en pensant à la nature de la neige. Il y a une certaine sensualité aussi dans le traitement de cette matière, qui sont diverses, depuis le plâtre jusqu'au l'acier inoxydable, l'or, etc.
Bon, les matériaux pour lui, c'est bien évidemment, c'est quelque chose très très important. Le plâtre, il a utilisé à plusieurs reprises pour la simple raison, il y a, semble-t-il, un point avant que le plâtre durcit où il a la même consistance et la même qualité de surface que la neige ou que ensuite la glace. Et pour ça, ensuite, il a utilisé soit comme matériau de sculpture, soit aussi comme outil pour faire, par exemple, certaines de ses estampes ou certaines de ses installations. Et c'est là une sensibilité aux matériaux qui est extraordinaire, qui est vraiment remarquable.
Nous parlons de la nature seule et des matériaux, mais il y a aussi les animaux qui prennent une place importante. Je pense à ce que vous avez présenté dans le catalogue avec ce lapin noir et ce lapin blanc, les bois de serre par exemple, la langue de bœuf qui semble tenir une place importante, puisque la langue de bœuf notamment est en bronze, elle est aussi en marbre dans des proportions gigantesques.
Cette relation avec les animaux, c'est une partie de sa jeunesse, comment il a grandi. La Basse-Engadine, encore aujourd'hui, tout le monde le sait, est une région encore assez rurale où ensuite la vie avec les animaux est omniprésente et ça lui est très marqué. On a dans cette exposition pas les formes les plus extrêmes qu'il a fait avec des animaux. Il a utilisé parfois des vrais animaux dans ses installations. Ça on n'a pas inclus, mais c'est un point extrêmement important pour lui.
Ces sculptures donc, que vous présentez sont proches de l'objet parfait. Elles sont extrêmement soignées, peut-être dans un souci de beauté. Quel est le rapport de notre vital avec la beauté?
Je l'ai jamais entendu parler de la beauté. Je l'ai toujours entendu parler de la perfection de la production. Il est quelqu'un qui choisit extrêmement soigneusement les collaborateurs avec lesquels ensuite il veut réaliser un objet. Il choisit les artisans, il choisit des techniciens qui maîtrisent parfaitement ensuite une certaine procédure, soit ça ensuite des orfèvres du Niger pour certains de ces objets en argent, soit ça ensuite des souffleurs de verre à Murano, soit ça des ouvriers, des artisans pour travailler à l'inox en Chine. C'est vraiment la perfection de la surface et de l'exécution, ça c'est quelque chose qui est primordial pour lui. La beauté, comme je viens de dire, je crois que ce n'est pas vraiment le souci principal, c'est plutôt vraiment l'exécution parfaite de son idée.
Vous venez de citer son travail au Niger. C'est un artiste qui voyage beaucoup. Il a acheté, par exemple, des terrains, que ce soit en Chine, en Indonésie, pour construire notamment cette maison architecture-sculpture pour regarder le coucher de soleil. Quel rapport entretient-il avec les pays qu'il visite, avec les cultures? Quelle est la motivation pour choisir ces destinations?
Il choisit les destinations, il choisit les endroits avec le degré d'inspiration qu'il peut avoir. Ce qui est important pour lui, c'est qu'il ne veut pas y aller et ensuite réaliser quelque chose tout seul. Ça doit toujours être en relation avec la population, avec les traditions et avec les cultures locales, en tenant compte les idées et les approches que les gens ont sur place. Alors, par exemple, au Niger, quand il a construit certaines de ses maisons, entre autres aussi une maison pour regarder le coucher de soleil ou une maison pour regarder la lune, il a travaillé avec la boue, il a travaillé avec l'argenterie, parce que là, il a trouvé les matériaux et le savoir-faire. En Indonésie, ça va être différent. En Patagonie, où il a acheté une île, il va réaliser une immense sculpture en marbre, parce que l'île est en marbre. Alors, c'est là, ensuite, le matériau qui détermine le lieu.
Est-ce qu'on peut parler aussi d'un artiste altruiste, dans la mesure où ses constructions, je crois qu'elle s'appelle Makaranta au Niger, qui est d'un côté une sculpture, mais elle a aussi une utilité qui bénéficie au village puisqu'elle sert d'école.
Elle sert d'école, mais disons principalement c'est une sculpture, c'est une immense sculpture qui ensuite peut avoir une deuxième fonction. La deuxième fonction comme école était prévu, mais pas à un tel degré. Et ce que lui ne veut pas être, c'est ce qu'il souligne toujours, c'est qu'il ne veut pas être un artiste qui fait le développement d'un des pays sous-développés ou d'un des pays pauvres. C'est pas quelque chose, c'est pas un message politique qu'il veut faire passer. C'est un message de sculpteur qui l'intéresse principalement.
Puisque nous parlons beaucoup de l'influence de la nature sur notre vital, quel est son rapport avec le land art?
Ça existe. Alors, il est notamment dans son parc Ascent, dans ses projets en Patagonie, dans ses projets au Niger ou en Indonésie. Il envahit le paysage. Il transforme le paysage. Il ajoute un bâtiment, un autre élément au paysage. Mais il n'est pas, il se comprend pas comme un artiste de la land art comme on le connaît des années 60-70. C'est plutôt un intérêt secondaire qu'il porte en respect de la nature et en respect de la situation qu'il retrouve.
Est-ce que le titre de cette exposition, donc, qui est Entre, a un rapport avec ses voyages, les différentes cultures qu'il rencontre?
Oui, c'est un rapport. Et disons, c'est moi, j'ai voulu qu'on aura un titre en roumanche, entre autres aussi parce que c'est une partie extrêmement importante pour lui. Le roumanche, la culture de la basse Engadine, c'est la culture qu'il a forgée, c'est sa culture de base, c'est sa langue maternelle. J'ai trouvé important de l'exprimer aussi à l'autre bout de la Suisse, que lui peut s'exprimer à l'autre bout de la Suisse dans sa langue maternelle. Et finalement, pour le concept de l'exposition, ça tombait extrêmement bien parce qu'on a ni fait une rétrospective, ni fait une exposition seulement des œuvres sur papier, soit ça des dessins ou soit ça des gravures, ni une exposition de ses dernières œuvres, ni quelque chose seulement de la sculpture. On est entre les différents objets, entre les différents types d'objets, entre les différents aussi possibilités de les lire, de les comprendre, de les mettre en relation. Et c'est ça qui, à mon avis, rend cette exposition si riche et si stimulante qu'on a cette ouverture qu'on doit écouter et lire très précisément, qu'on doit se prendre le temps. Mais dès qu'on le fasse, ensuite on découvre une richesse extraordinaire.
Merci Christian Hublin.
Genève Active.ch